18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'élection présidentielle américaine, c'est une journée spéciale que vous propose France Inter, le jour où se tient le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Passionnante élection, passionnante campagne pour ce qu'elle dit des États-Unis aujourd'hui, mais aussi de la politique en général, ailleurs, par exemple chez nous, l'émergence des candidats anti-système, le rejet des élites, l'usage du mensonge, les transgressions au nom du politiquement correct, le rôle des médias. Est-ce que, selon le cycle bien connu, ce qui se passe aux États-Unis se reproduit immanquablement chez nous quelques années plus tard? C'est l'une des questions qu'on va explorer ce soir dans Le Téléphone Sonne.
Nicolas Demorand, Le Téléphone Sonne.
01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Laissez-moi vous présenter nos invités. André Caspi, bonjour.
Bonjour.
Professeur honoraire à la Sorbonne, grand spécialiste des États-Unis. Alain Frachon, bonjour.
Bonjour, bonsoir Nicolas.
Éditorialiste au quotidien Le Monde, ça fait plaisir de vous retrouver. L'ami Frédéric Carbone, correspondant de France Inter à Washington, mais qui se trouve là à Long Island et qui va suivre pour Inter et pour Radio France ce débat cette nuit, 3h du matin, heure française. Je vous resalue, Frédéric.
Re-Nicolas, re-salut, bonsoir à tous.
Campagne totalement inédite, campagne élection totalement inédite, André Caspi.
Toutes les élections sont inédites, hein, par définition.
Enfin, celle-là, elle est un peu plus que les autres.
Voilà. Alors, elle est inédite en ce sens que le candidat républicain n'a pas d'expérience politique, du moins en principe. C'est un candidat hors norme. C'est une élection inédite également parce qu'en revanche, la candidate démocrate est une véritable professionnelle de la politique qui depuis 25 ans est au premier plan de l'actualité. Et puis, c'est une élection inédite aussi parce que les deux candidats ont le même taux d'impopularité. Les républicains détestent Hillary Clinton et les démocrates détestent Donald Trump. Par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une élection qui sort de l'ordinaire et dont on peut difficilement prévoir l'issue, mais comme vous ne m'avez pas posé la question, je ne répondrai pas.
Ça va venir, vous inquiétez pas, vous n'y échapperez pas. Alain Frachon, inédite cette campagne, cette élection?
Inédite un petit peu parce qu'il y a un insurgé qui n'a jamais fait de politique, qui pratique l'insulte, le mensonge, des exagérations énormes, qui se cache, qui refuse de dire combien il paye d'impôts, etc., etc., etc. Donc un candidat qui est hors norme. Mais il a su capter quelque chose dans l'opinion américaine. Un grand mécontentement, notamment, principalement chez les blancs américains. Une colère contre un système politique qui fonctionne mal, selon eux. Un système politique incapable de se réformer. Un statu quo qui leur paraît pesant et toujours pesé sur les mêmes personnes sur le plan économique et social. Donc ça, Trump a eu le talent, un talent qu'on n'avait jamais encore vu, peut-être il y a quelques années, Ross Perot, par exemple, mais c'était pas tout à fait la même situation. Il a eu ce talent étonnant d'apparaître comme l'homme capable de cristalliser cette colère et d'être le porte-parole de ces gens.
Frédéric Carbone, ça fait des mois et des mois que lundi après lundi, nous suivons cette élection depuis les primaires républicaines, les primaires démocrates, l'investiture pour finir. Ça a été tout de même une série de surprises dans chacun des camps. La percée de Sanders, c'est la durée de cette percée, et la victoire, pour finir, de Donald Trump côté républicain.
Oui, et j'ai envie de vous dire, ce que disent vos invités est évidemment totalement juste, et ça s'est cristallisé assez vite. C'est vrai qu'on le suit depuis quasiment 18 mois que cette campagne a commencé, mais Donald Trump, dès le mois de septembre de l'an dernier, même l'été 2015, ce mouvement, le fait qu'il soit le messager de cette Amérique blanche en colère qui a le sentiment d'être abandonnée, ça s'est fait très très vite. On l'a, des meetings, peut-être que quand on ne sait pas s'il sera élu ou pas, mais on retiendra peut-être une date du mois de juillet, je crois, 2015. Il est à Biloxi, dans le Mississippi, Mississippi, il y a 20 000 personnes qui sont là. Voilà, ça s'est joué très très vite et Trump a très vite dit c'est pas moi la question. Lui, l'égotiste complet, c'est pas moi, je suis un messager et c'est un mouvement. Et depuis, il surfe là-dessus. Le mouvement, très honnêtement, il n'a pas énormément grossi, il reste sur un même socle de personnes, on va dire 30-35%, ce qui est énorme de l'électorat américain. Et la question, elle est toujours la même, est-ce qu'il va réussir à élargir, à aller au-delà pour être le président des États-Unis?
Allez, on file au standard de France Inter. Bonsoir Franck.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, vous nous appelez de Dinan et nous vous écoutons avec attention.
Oui, je suis vraiment scandalisé de voir que depuis des mois, les médias qui se font le relais du pouvoir en place s'acharnent contre Trump et ne disent que du bien d'Hillary Clinton. Je trouve quand même que ce parti pris est quand même vraiment bizarre et douteux, parce que quand on sait qu'Hillary Clinton est proche des néoconservateurs et que notamment elle veut remettre en cause l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, on sait très bien que si cet accord est remis en cause...
C'est faux, disent nos invités, mais continuez Franck, continuez.
Elle l'a dit il y a déjà, c'était l'année dernière, elle a dit que si elle était élue, elle remettrait en cause l'accord avec l'Iran parce qu'elle n'était pas d'accord que Obama ait fait cet accord. Moi je crois que Hillary Clinton est une vatte en guerre, qu'on n'a rien à gagner en Europe d'avoir Hillary Clinton comme présidente.
Et Trump.
Je sais bien que le choix de Trump n'est pas forcément l'idéal pour nous, mais au moins entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et je pense que Trump est moins va-t-en-guerre, et certainement peut-être même pas du tout va-t-en-guerre par rapport à Clinton. Et moi, je crains vraiment que Clinton arrive à la Maison Blanche.
Eh bien, merci Franck pour cette question, André Caspi.
Bah écoutez, moi je ne crains rien parce que je ne suis pas républicain, je ne suis pas démocrate, je ne vote pas aux États-Unis. Mais en revanche, je crois que l'observation de notre auditeur n'est pas tout à fait exacte. D'abord, il se trouve que Donald Trump est plutôt dans le sens de l'isolationnisme, si l'on peut dire, mais le mot isolationnisme est trop fort, ça n'est pas cela. Il insiste sur un thème qui est « America first », c'est-à-dire, au fond, ce sont les intérêts américains qui doivent être au premier plan de son action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas toujours très clair. En revanche, Hillary Clinton, c'est plutôt la suite de la politique étrangère de Barack Obama avec peut-être un peu plus de muscles, mais c'est pas très sûr parce qu'il faut pas oublier d'ailleurs qu'Hillary Clinton a été pendant 4 ans la secrétaire d'État du président actuel. Par conséquent, elle hérite et je vois mal comment elle pourrait se détacher complètement de l'héritage de Barack Obama. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'il vaut mieux, Hillary Clinton ou Donald Trump? C'est difficile à dire parce que c'est vrai que dans un cas comme dans l'autre, l'Europe n'est pas au centre des préoccupations. Ce qui est au centre des préoccupations américaines, ce sont les relations avec la Chine, ce sont les relations qui existent ou qui n'existent pas vraiment avec la Russie, c'est la question du Moyen-Orient. Autrement dit, tout cela fait que on ne peut pas dire qu'il y ait pour nous un candidat qui soit meilleur que l'autre, sauf que on est moins surpris par l'attitude d'Hillary Clinton que par les incertitudes que peut soulever Donald Trump. C'est ça le problème.
Alain Frachon.
Les incertitudes avec Donald Trump, mais c'est exactement ce qui le caractérise. On peut faire, pourquoi pas, comme le faisait notre ami, notre auditeur, on peut faire un procès en vague tendance néoconservatrice à Hillary Clinton, c'est-à-dire cette volonté d'utiliser la force pour maintenir une manière de prépondérance américaine dans le monde, puisqu'elle a voté l'opération contre l'Irak en 2003. Mais il faut voir que Trump était farouchement pour cette opération, contrairement à ce qu'il dit maintenant. Il faut voir qu'il était à fond pour l'opération en Libye et qu'il se plaignait même que les États-Unis ne soient pas encore intervenus militairement pour chasser Kadhafi du pouvoir lorsqu'il y a eu cette insurrection en Libye en 2011 ou en 2012, je crois. Trump, c'est l'incertitude totale. Il est contre les accords de Paris sur le réchauffement climatique. Il l'a dit qu'il les jetterait dans le Potomac. Il est contre l'accord nucléaire avec l'Iran. Alors que ce qu'a dit Hillary Clinton, c'était différent. Elle a dit « je ne suis pas d'accord avec certaines des modalités de l'accord en ce qui concerne la levée des sanctions. Je pense qu'il faut aller plus doucement pour lever les sanctions. » Mais elle a dit tout le bien qu'elle pensait, au contraire, de l'aspect contrôle des armements nucléaires de cet accord. Et elle n'entend aucunement le remettre en question. Avec Trump, vous avez quelqu'un qui un jour dit qu'il va mettre des taxes sur les importations chinoises de 45% et puis de 35% sur les importations mexicaines. Après, il abandonne ça parce qu'on lui dit que ça créerait 5 à 6 millions de chômeurs aux États-Unis. Donc vous êtes dans l'incertitude totale. Il n'a rien révélé de sa vision du monde, hormis cette espèce de sensibilité isolationniste, c'est-à-dire d'abord les intérêts des États-Unis.
Et cela dit, peut-être...
André Caspi, puis Frédéric Carbone.
Je voudrais ajouter qu'il y a malgré tout quelques points communs entre Barack Obama et Donald Trump.
Alors allez-y.
Oui, il y a quelques points communs parce que au fond, Barack Obama s'est de plus en plus engagé dans une politique étrangère qui consiste à mettre en avant les seuls intérêts américains. Et je crois que ce qui est révélateur, c'est l'attitude de ce président à l'égard des affaires du Moyen-Orient. Lorsqu'il a refusé d'intervenir contre la Syrie qui avait utilisé des armes chimiques en août 2013, il a laissé en somme libre cours à l'influence russe et il a bien insisté dans un très récent interview sur la nécessité pour lui de n'intervenir que lorsque les intérêts américains sont directement menacés. Il a d'ailleurs dit aussi, comme Trump, même si ça paraît extraordinaire, mais il a dit aussi, comme Trump, que les Européens feraient bien de dépenser davantage pour leur défense et de compter un peu moins sur l'argent des Américains. Donc vous voyez, on est dans une sorte d'incertitude, parce que le mot qui nous réunit avec Alain Frachon, parce que on est dans une incertitude parce qu'on ne sait pas très bien dans quel sens Donald Trump peut aller et on ne sait pas très bien non plus dans quel sens Hillary Clinton peut évoluer. Parce que si elle évolue dans le sens de Barack Obama, bon, ben, ça voudra dire que les États-Unis n'occupent plus la première place comme ils le faisaient auparavant. Les États-Unis d'aujourd'hui ne veulent plus être la superpuissance qui règle l'ordre mondial. Ça n'est plus vrai. Mm-hmm. Et par conséquent, je crois, il faut compter de moins en moins sur leur présence et il faut que de plus en plus, nous, les Européens, nous fassions l'effort de renforcer notre défense, ce que malheureusement nous ne faisons pas assez.
Frédéric Carbone, sur les diverses incertitudes pointées ici en studio à France Inter à Paris.
Oui, sur ces incertitudes et puis sur ce que disait notre auditeur me rappelait des échos qu'on a ici de sons de cloche de même nature. C'est-à-dire si vous écoutez des électeurs de Bernie Sanders, pas tous, mais une partie. On parlait tout à l'heure du mouvement Sanders, qui est un mouvement profond effectivement. Eh bien, moi, j'ai rencontré très souvent dans des meetings de Bernie Sanders des électeurs qui me disent je ne voterai pas Hillary Clinton, j'aurai du mal, beaucoup de mal en tout cas à voter Hillary Clinton en novembre à cause de son côté faucon en termes de politique étrangère. Le vote en Irak notamment, Alain Frachon pour la guerre en Irak, Alain Frachon en parlait. Il y a cette impression-là chez certains électeurs démocrates, de la gauche du Parti démocrate. Ce qui est intéressant côté républicain, c'est que Donald Trump, il met, alors bien sûr il y a les incertitudes, mais sur la politique étrangère, sur le commerce, il met au panier quasiment tout un héritage, enfin une partie d'un héritage républicain, en tout cas de ces trois dernières décennies. Alors c'est contesté, il s'en prend beaucoup aux bouches, notamment pour la guerre en Irak, mais vous avez la famille Bush qui ne votera jamais pour lui, en tout cas qui ne le dit pas, mais vous avez eu hier par exemple des dizaines de personnes qui ont travaillé dans les administrations Bush et qui disent on va voter Donald Trump. Donc il est en train, avec toutes ces incertitudes, avec tous ces revirements, de mettre quand même au panier une partie d'un héritage républicain.
Allez, retour au standard et direction la Guadeloupe. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, vous avez la parole.
Oui, je disais que le langage de Trump vis-à-vis de la communauté noire a montré une certaine subtilité. Même si je suis pas sûr qu'il soit entendu, mais le fait de dire à la communauté noire « qu'est-ce que vous avez à perdre ? Essayez-moi, parce que votre situation n'a pas évolué depuis une vingtaine d'années et que votre situation sociale même empire » est une stratégie qui n'est pas mauvaise en soi. Je ne sais pas si elle aura des résultats, mais en tout cas, il a touché un point sensible. Et la considération qu'ont souvent les républicains pour mettre des noirs à des postes très importants dans l'administration, ce que n'a pas fait non plus Obama spécialement. Je me rappelle de Bush qui avait mis en place chefs d'état-major, le père et le fils, Condoleezza Rice aussi. Et donc, ça montre bien que ce langage aussi, pour une fois, est assez subtil.
Merci Jean-Marie pour cette question. Je vais donner la parole à Frédéric Carbone. On a diffusé, c'était un extrait, Frédéric, d'un discours prononcé, je crois, dans le Michigan au mois d'août dernier, où effectivement Donald Trump s'adressait à la communauté noire et disait qu'est-ce qui a changé pour vous sous Obama? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Et qu'est-ce que vous perdez à essayer de l'aventure avec moi? Comment ça a été reçu?
Écoutez, si on regarde les sondages, en tout cas, dans les minorités, notamment la minorité noire, afro-américaine, Donald Trump reste à des taux très bas d'intention de vote, moins de 10%. Alors peut-être que c'est habile, en tout cas c'est fait assez grossièrement quand même, sur le mode « vous n'avez rien à perdre à tenter Trump », comme si c'était un produit, vous n'avez effectivement rien à perdre. Non, ce que font remarquer beaucoup de représentants de la communauté noire, c'est tout ça oublie des décennies et des siècles d'histoire américaine. Est-ce que c'est pire aujourd'hui que l'esclavage? Est-ce que c'est pire aujourd'hui que la ségrégation? Après, là où il y a peut-être une habileté, j'en sais rien, on le verra dans les urnes, c'est que ces propos-là dont je vous parle, ce sont des représentants des associations noires, des gens qui ont été associés au lieu des années 60, on va dire des adultes 40, 50, 60 ans. La jeunesse noire de quartier qui sont en difficulté, je ne dis pas qu'elle ira voter Trump. Je dis en revanche qu'elle est moins encline d'aller voter Hillary Clinton que d'aller voter Obama. Ce que dit Trump, sans doute n'y a pas une volonté, ou en tout cas un espoir de conquérir un vote noir massif, mais au moins en arracher une partie à Hillary Clinton, et puis il s'adresse en disant ça aussi à la population blanche, sur un mode non, je ne suis pas raciste, oui, je me préoccupe de tout le monde dans ce pays, donc n'ayez pas peur de moi, vous pouvez voter pour moi. C'est aussi ça le sens de ces messages-là.
André Caspi, sur la question de notre auditeur, l'appel de Donald Trump à la communauté africaine-américaine.
Alors, je crois qu'il faut d'abord tenir compte de plus de deux faits. Le premier fait, c'est que sur le plan statistique, la communauté noire vote à peu près à 90 ou 95% pour le candidat démocrate. D'autre part, il ne faut pas oublier non plus que Donald Trump est un tenant des complots, des histoires complotistes. Donc, il a longtemps défendu l'idée que Barack Obama n'était pas né sur le sol des États-Unis et qu'en conséquence, il n'aurait pas dû être président des États-Unis. Alors, il vient récemment de dire que ça n'était plus tout à fait le cas. Il a fait amende honorable.
Mais c'était Hillary Clinton qui l'avait
Il est de fait qu'il traîne ce passé. Alors, ce qu'essaye de faire Donald Trump, c'est d'attirer une partie de la communauté noire. Il n'est pas certain qu'il n'y réussisse pas. Je dirais qu'il peut en effet entraîner une petite partie de la communauté noire. Et puis aussi, n'oubliez pas que si la communauté noire est déçue partiellement de la politique de Barack Obama, cela peut entraîner un taux d'abstention un peu plus élevé. Alors, quand on est au coude à coude, il est évident que le moindre pourcentage peut avoir une influence décisive. Et c'est en ce sens que la démarche de Donald Trump pourrait être positive en sa faveur.
Alain Frachon.
Je me demande si on ne fait pas quelquefois un mauvais procès à Barack Obama à cet égard. Certes, on a l'impression, et c'est sans doute une réalité, quand on voit les émeutes successives depuis 3 ans, etc., et encore tout récemment, de ces jeunes gens qui sont tués dans des conditions pour le moins étonnantes par la police, etc. Mais d'abord, Obama ne s'est jamais présenté comme le président des Noirs. C'était pas ça, Obama. Symboliquement, bien sûr, son élection reste, elle avait une force incroyable. Et c'est une date historique, c'est un précédent formidable pour les États-Unis. Mais il a toujours pris soin d'être le président des Américains, hein, au-delà de toutes leurs différences, etc. Ensuite, si l'on voit ce qu'il a fait en 8 ans, dans le redressement de la situation économique, il a élevé le salaire minimum. Il a étendu la période dans laquelle un chômeur peut toucher les indemnités chômage. Il a sauvé l'industrie automobile américaine, etc., etc. Il a remis l'économie américaine sur des bases relativement saines, même si c'est encore assez volatile. Mais tout ça, prioritairement, qui en profite? C'est très largement la communauté noire. Alors certes, il y a cette polarisation, etc. Mais enfin, je trouve qu'on lui fait un procès un peu rapide dans ce domaine. Et je suis sûr qu'ayant quitté la Maison-Blanche, il s'en expliquera.
Éric nous pose, Éric Duvar, une question. Je vous la transmets, Frédéric Carbone. Le soutien à Clinton ou la désolidarisation, qu'en est-il aujourd'hui de l'électorat de Bernie Sanders?
Gros problème.
Écoutez,
si l'on en croit pas mal de sondages,
gros problème,
il pourrait rester
Frachon
à la maison.
Il pourrait rester à la maison, dit Alain Frachon. Frédéric, vous avez
problème,
la parole.
C'est des jeunes notamment. Gros problème, c'est des jeunes notamment. C'est ce qu'on appelle les millénials, la génération 20-30 ans, à la faculté d'Ofstra où va avoir lieu le débat aujourd'hui. On en croise tout le temps de ces étudiants qui se sont engagés, ou les 25-30 ans qui sont engagés derrière la campagne Sanders avec énormément d'espoir. D'ailleurs, Hillary Clinton a repris des pans entiers du programme de Bernie Sanders, notamment sur la dette étudiante. Mais non, il n'y a pas spontanément d'énergie, d'enthousiasme pour aller vers elle. Tout ça, ça va se jouer aussi à la fin. Est-ce que Trump va être élu? Est-ce que Trump risque vraiment d'être élu ou pas pour ces gens-là? Voilà, ça va se jouer aussi avec ces questions-là au dernier moment.
Mais en tout cas, Bernie Sanders, Frédéric, a été très clair et a appelé sa base électorale, ses soutiens, à voter clairement et sans état d'âme Hillary Clinton.
Il l'a dit, redit, il l'a dit à la convention et il fait campagne pour Hillary Clinton. Il est régulièrement, par exemple, ces jours-ci, dans l'état de l'Ohio, qui est toujours un état extrêmement important au moment de la présidentielle et qui est un des états où se joue le plus la question de ces votes de la classe ouvrière, des milieux les plus populaires qui de plus en plus vont vers Donald Trump. Donc Bernie Sanders appelle et fait campagne pour Hillary Clinton, évidemment.
André Caspi.
Écoutez, ce que je crois, c'est que le taux d'abstention est toujours élevé aux États-Unis, d'autant plus élevé que c'est en fonction de l'âge de voter que l'on calcule le taux d'abstention et non pas en fonction des inscriptions. Mais en ce qui concerne les jeunes, Donald Trump a essayé de récupérer la clientèle de Bernie Sanders. Bien évidemment, il n'y est pas parvenu. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si Bernie Sanders possède les voix des jeunes. Aucun homme politique ne peut être assuré que ceux qui ont voté pour lui la première fois voteront la deuxième fois pour l'homme ou la femme que cet homme politique pourra désigner. Personne ne peut dire ça, que ce soit en France ou aux États-Unis.
Les fameuses consignes de vote.
Donc, les consignes de vote, moi, je n'y crois qu'à moitié et je suis à peu près certain que beaucoup de jeunes s'abstiendront. Et que ces abstentions pourront évidemment contribuer à changer la nature du vote, mais dans quelle mesure, je ne peux pas l'affirmer, puisque je n'ai aucun instrument qui me permette de le dire. Mais en tout cas, je pense que ces jeunes ne vont pas se rallier automatiquement à Hillary Clinton, parce qu'ils n'ont pas confiance en elle, au même titre d'ailleurs que les électeurs de Trump n'ont pas confiance dans Hillary Clinton. N'oubliez pas que 60% des Américains, non pardon, 59% pour être très exact, 59% des Américains expriment des doutes sur la sincérité d'Hillary Clinton. Et ils sont 60% à exprimer les mêmes doutes sur la sincérité de Donald Trump. C'est-à-dire que là, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, deux candidats très impopulaires. Alors, les jeunes sont exactement dans cette situation-là.
Alain Frachon sur Bernie Sanders et son électorat.
C'est toute la volatilité de cette élection et c'est toute la fragilité d'Hillary Clinton pour toutes les raisons qu'on a dites, parce qu'elle est la quintessence, l'incarnation, la quintessence du statu quo et de ce monde politique rejeté par les Américains pour son incapacité, en tout cas semble-t-il, à faire bouger les choses. Volatilité de l'électorat Sanders, mais comme on l'a dit aussi, volatilité d'une partie de l'électorat noir. Parce que si, je crois que Barack Obama, lors de ces deux élections, a rallié le plus grand nombre d'électeurs noirs qui soient jamais allés aux urnes dans l'histoire moderne de la République américaine, de l'Union américaine. Il n'est pas du tout sûr qu'Hillary Clinton réalise un score du même type. Donc on voit tout ce côté friable de son électorat potentiel.
Le téléphone sonne continue sur France Inter, 19h45.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
André Caspi, professeur honoraire à la Sorbonne, grand spécialiste des États-Unis. Alain Frachon, éditorialiste au quotidien Le Monde et en direct depuis la région de New York. Frédéric Carbone, le correspondant de France Inter aux États-Unis. Trois invités pour vous répondre. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Alexandre de Paris 14. J'ai une question à poser qui est la suivante. Si Donald Trump l'emporte dans les trois débats télévisés et au-delà l'emporte à l'élection, est-ce qu'il n'y risquerait-il pas d'y avoir une trompisation des esprits et des politiques dans le monde entier ?
Très bonne question, Alexandre, que je soumets à Alain Frachon.
Eh bien, écoutez...
est-ce que c'est un phénomène strictement américain, Donald Trump, ou est-ce que on voit des Trumps un peu partout dans le monde aujourd'hui ?
Disons que la forme prise par cette espèce, cette manière d'insurrection face à la globalisation, face au statu quo, cet anti-élitisme que vous mentionnez aux États-Unis est largement partagé. De ce point de vue, on a le sentiment d'un paysage politique américain très semblable au paysage politique européen, ou le contraire. Mais donc, on voit bien que dans le monde occidental, d'ailleurs, aucun gouvernement ne dispose d'une majorité. On voit bien cette instabilité politique chronique depuis une dizaine d'années dans le monde occidental. Ce n'est ni singulier à la France, et cette élection non plus n'a pas un profil singulier. Ce qui me paraît typiquement, exclusivement américain, en revanche, voire new-yorkais, c'est Trump, c'est la personnalité de Trump. Mmh. C'est sa force et c'est sa faiblesse, si vous voulez. Mais c'est un homme de télé-réalité qui n'a jamais fait de politique, qui se permet d'insulter des pans entiers de l'électorat, qui ne respecte absolument aucune des règles du débat politique traditionnel, qui renverse totalement le programme traditionnel de son parti. Ça, pour le coup, la trumpisation me paraît être essentiellement américaine.
André Caspi.
Moi, je retiens de ce que vient de dire Alain Frachon l'expression « débat traditionnel ». C'est-à-dire qu'au fond, Donald Trump n'appartient pas au monde traditionnel de la politique. Et en ce sens, quand il combat Hillary Clinton, il combat la politique à l'ancienne. Et je crois que c'est une nouvelle forme de politique qui est en train de se dégager. On peut ne pas apprécier, hein. Je ne dis pas qu'il faut applaudir dès demain. Mais c'est une nouvelle forme de politique. Et en particulier, c'est l'émergence de personnes qui ne sont pas des professionnels, qui viennent de l'extérieur, qui expriment, comme on l'a dit tout à l'heure, la colère d'un certain nombre d'électeurs et qui utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition. Et il faut faire attention parce que Donald Trump, en effet, est un homme de la télé-réalité qui sait remarquablement bien se débrouiller devant un micro et devant une caméra qui a parfois l'imprudence et même très souvent de prononcer ses discours sans téléprompteur, ce qui lui arrive évidemment, c'est que il lui arrive de dire des bêtises, mais il n'empêche que cet homme-là représente quelque chose de nouveau, et je répète que c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien. Mais ça représente en tout cas un changement par rapport à la politique traditionnelle. N'oubliez pas qu'Hillary Clinton est sur le devant de la scène depuis plus de 25 ans. Et par conséquent, pour ces jeunes que nous évoquions tout à l'heure, mais c'est vraiment la vieille Amérique. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils souhaitent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour Trump, ça veut dire qu'ils sont pour Bernie Sanders, qui lui-même a 74 ans. Mais ça signifie qu'ils ont besoin d'un renouveau. Mmh. C'est ça, je crois, qui est important. Et ce renouveau, on le voit aux États-Unis, on risque de le voir aussi en Europe.
Voilà, alors sur le fait de savoir si Trump est un phénomène purement américain ou l'une des modalités de la politique contemporaine, cette question qui nous vient par courriel, Trump bénéficie peut-être d'un ras-le-bol contre le politiquement correct. Ce n'est pas une raison pour être raciste et misogyne, mais beaucoup d'Américains ont le sentiment de ne plus pouvoir rien dire. Attention à ce que ça n'arrive pas en France. Il y a des Trump en embuscade. Sur le politiquement correct et le politiquement incorrect, Frédéric Carbone, ça a été l'une des gammes favorites de Donald Trump.
Ah, c'est une gamme favorite de Donald Trump, le politiquement correct, avec les médias politiquement corrects eux-mêmes. Et c'est une réalité ici. Alors, pour le coup, je ne sais pas s'il y a quelque chose de l'ordre du mouvement mondial et de comparaison partout ici en Europe. Mais le politiquement correct, institutionnalisé et avec le sentiment sur les campus, ailleurs, qu'effectivement, il y a des choses que l'on ne peut pas dire, il y a des choses que l'on ne doit pas dire, il y a des façons de s'exprimer contraintes. Oui, c'est une réalité. Alors, Donald Trump, par sa façon brutale, ne séduit pas tout le monde, mais il touche, évidemment, avec ce point-là, quelque chose de clé. Il le répète tout le temps depuis un an et demi. Il va le répéter encore ce soir, c'est une évidence.
Y a quelque chose de transgressif et de fondamentalement transgressif dans la manière qu'il a de faire de la politique, Donald Trump, André Caspi.
Bien sûr que c'est transgressif. Et plus c'est transgressif, et plus les médias rapportent les transgressions, et plus ça contribue à augmenter la population de Donald Trump. C'est-à-dire, plus il dit des choses qu'en général on ne dit pas...
Se moquer d'un handicapé, moquer du physique des femmes, etc., etc.
Tout cela, en somme, revient à dire « je m'exprime comme je le sens », c'est-à-dire comme le ressentent des millions d'Américains. Bon, les médias immédiatement s'en saisissent, et plus ils s'en saisissent, et plus ça contribue à renforcer la popularité de Donald Trump. Donc, j'ose dire, même à France Inter, que la responsabilité des médias est engagée dans le succès de Donald Trump.
Et je vous réponds que vous avez entièrement raison et que c'est une question qu'il va falloir d'ici 20 heures que nous nous posions collectivement. Alain Frachon, justement, est-ce que les médias américains, pour commencer, n'ont pas enfanté un monstre ? C'est une coproduction médiatique. Donald Trump.
C'est-à-dire, il n'y aurait pas de phénomène Trump, très vraisemblablement, dans l'environnement médiatique d'il y a 10 ou 15 ans. Mais l'explosion des réseaux sociaux, Trump fait campagne avec ses 11 millions
de followers qui le suivent sur Twitter.
Chaque transgression de Trump lui vaut des passages à la télévision. Jusqu'à présent, 820 heures de télévision gratuite pour à peine 180 pour Hillary Clinton. Donc ce paysage médiatique est très très pervers. Parce que les réseaux sociaux, si vous voulez, ça veut dire on abandonne complètement la presse généraliste. Les réseaux sociaux, c'est « je ne lis que ce que j'aime ». Les Américains appellent ça « monpointdevue.com »,« myviewpoint.com ». Je ne lis que du Trump ou que des réseaux sociaux qui sont favorables à Trump, etc. Je ne suis sur Twitter que des gens qui sont favorables. C'est à ce moment-là que le sens même de la vérité factuelle disparaît et que les opinions sont ceux qui vont façonner une campagne électorale et non plus la réalité factuelle. Donc le paysage médiatique...
Mais on parle précisément de démocratie post-factuelle, de régime de post-vérité aujourd'hui pour décrire Donald Trump. C'est-à-dire qu'il peut dire n'importe quoi...
Ça ne le handicape pas.
Au contraire.
Au contraire. Plus il dit n'importe quoi, et plus on en parle. C'est ça le problème. Et d'un autre côté, comment ne pas en parler ? Et puis, lui-même se charge d'en faire parler. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un homme de la communication. Et parce qu'il connaît sur le bout des doigts les secrets de la communication, c'est un homme extrêmement efficace, ou si vous préférez, extrêmement dangereux.
Madame Frachon, puis Frédéric.
Question qui va être au cœur de ces trois débats télévisés. Est-ce que le rôle des journalistes, notamment des journalistes de télévision, puisque ça reste quand même le média, c'est le média des débats déjà, ça reste un média fondamental dans la campagne, n'est pas de dire « non monsieur, vous ne pouvez pas dire ça ». La plupart des journalistes de télévision...
Les fact-checkers, comme on dit là-bas.
La plupart des journalistes... Non, nous sommes des modérateurs. Nous posons les questions, nous sommes les relais du public, nous ne sommes pas là pour rectifier ce que disent nos interlocuteurs, les deux personnes qui sont en débat. Là aussi, il me semble, comme au moment du Brexit, les gens qui étaient pour, ça disent la BBC nous a laissé tomber, parce que c'était la même forme de débat. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, une blague douteuse, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire aux États-Unis. Deux minutes pour Hitler, deux minutes pour les Juifs. Ça, c'est un débat.
Oui, mais d'un autre côté...
André Caspi et Frédéric Carbone.
Non, mais d'un autre côté, je pense que les journalistes, dont je ne suis pas et que j'admire beaucoup, les journalistes sont là pour poser des questions. Ils ne sont pas là pour jouer les hommes ou les femmes politiques. Et alors... Je lis régulièrement le New York Times comme vous, et depuis des semaines, le New York Times ne cesse pas d'enquêter sur Donald Trump. Il y a même eu une enquête pour savoir si les psychiatres ne devaient pas intervenir parce que Donald Trump apparaîtrait comme un psychopathe. Bah, écoutez, c'est excessif. Ça veut dire qu'au fond...
Ça s'appelle
là...
un angle.
Bah, écoutez, non.
En langage journalistique.
Ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Les journalistes ont un rôle essentiel, mais ils ne doivent pas dépasser ce rôle essentiel.
Frédéric, on a suivi aussi pendant ces derniers mois le mea culpa de la presse et des médias américains qui ont largement contribué à la mise sur orbite de Donald Trump parce que ça fait de la bonne télé, parce que ça fait de bons sujets et qui, une fois qu'il s'est retrouvé investi, ils se sont dit « est-ce qu'on a bien fait notre travail ?»
Très honnêtement, Nicolas, le mea culpa, il est plus venu de la presse écrite des médias audiovisuels américains, du Washington Post, par exemple, sur le mode, on n'a pas assez pris au sérieux au début, et après, on n'a pas su quelle ligne tenir. Après, André Caspi a raison, le Washington Post, le New York Times surtout, sont dans une campagne anti-Trump évidente. Il y a quelque chose d'intéressant sur les débats de ce soir. Vos invités parlaient à juste titre de Trump, le candidat Twitter. Eh ben, là, on va se retrouver dans un débat qui est typiquement un débat des années 60, c'est-à-dire que ça n'a pas changé pour le coup presque la façon d'organiser les débats aux États-Unis depuis Nixon-Kennedy. Et le modérateur, alors peut-être que la question se pose parce que Donald Trump, les médias recensent les mensonges de Trump, donc peut-être que la question se pose plus pour Trump que pour d'autres, mais c'est clair, le modérateur ce soir, Lester Holt, ne va pas reprendre Trump à chacune de ses erreurs factuelles. Il l'a déjà dit, Lester Holt, il y a 4 ans, il y a une journaliste de CNN qui a repris Mitt Romney à un moment sur un des débats. Ça lui a quasiment coûté sa carrière. Enfin, il y a une polémique énorme après. Elle a peut-être pas très très bien choisi l'exemple, mais voilà, c'était fini après. Donc il n'y a aucun autre acteur du débat que les deux, Hillary Clinton et Donald Trump aujourd'hui. Ni le modérateur, ni le public.
Mais ça n'a pas empêché Donald Trump de dire que le modérateur était de toute façon un libéral, c'est-à-dire qu'il était de gauche, alors qu'en fait il est républicain, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, de dire qu'il était démocrate. Alors il l'appelle par son prénom, il dit qu'il est très sympa, qu'il l'aime beaucoup, mais qu'il est démocrate comme tous les journalistes. Il se trouve que Lester Holt est enregistré, puisqu'ici, on est comme en France, en France on n'est pas enregistré démocrate ou républicain, on n'est pas enregistré UMP, mais là on est enregistré démocrate, républicain ou indépendant, et Lester Holt à New York est enregistré comme républicain. Alors vous avez déjà des gens sur Twitter qui viennent dire que c'est un cheval de Troie démocrate, évidemment, forcément, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une théorie du complot à sortir derrière.
Et on va suivre ça de très près et avec un grand plaisir. Merci à tous les trois. André Caspi, professeur honoraire à la Sorbonne, grand spécialiste des États-Unis. Alain Frachon, éditorialiste au quotidien Le Monde. Et l'ami Frédéric Carbone, donc correspondant de France Inter à Washington, mais dans la région de New York aujourd'hui, pour suivre précisément ce débat. Le journal dans quelques instants. Merci amis auditeurs d'avoir participé et animé ce téléphone sonne.